David Gallet. Nous allons plonger dans la France mystérieuse, les mystérieuses archives, l'enquête au cœur de l'inexpliqué. C'est aux éditions de L'Opportun. Alors, ce tour de France du mystère et de l'étrange, on n'a pas encore tout dit sur les mystères de la France.
Ah, il y en a plein, il y en a, si on compte les légendes, les mythes et tout ce qui va avec, il y en a énormément. Dans les archives, on peut retrouver tout un tas de choses, alors qui sont liées à des monstres marins, par exemple, si on est du côté de la Bretagne ou du côté d'Arcachon, de ces coins-là en tout cas. On peut retrouver des histoires de fantômes, alors des maisons hantées, de tout un tas de choses, notamment en Normandie. Et c'est vrai qu'étonnamment, il y a pas mal de maisons hantées, des cas de possession également, des cas d'apparition, alors de vierges ou de choses dans le ciel, parce que les ovnis, finalement, ne sont pas finalement un phénomène moderne. On utilisait d'autres mots à certaines époques, mais on retrouve aussi des phénomènes aériens qui sont totalement inexplicables, en tout cas même aujourd'hui, et qui ont été décrits à certaines époques, alors 15, 16, 17e siècle, jusqu'à nos jours.
Alors bien sûr, il y a les incontournables comme Rennes-le-Château, mais on retrouve aussi le mystère de la tombe secrète de Jeanne d'Arc, par exemple, oui. Le peuple disparu des cagots. C'est quoi les cagots?
Alors les cagots, c'est une énigme historique.
Je connais les cagoles, mais c'est pas au même endroit.
Et en plus, ça n'a rien à voir, c'est vraiment aucun rapport. Les cagots, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est un peuple qui était plus petit que les autres, qui a été exclu pendant 1000 ans. Et ils avaient des particularités apparemment physiques qui faisaient qu'ils étaient très différents de la population locale. On est là du côté des Pyrénées, on va dire, plutôt dans le sud-ouest. Et cette population qu'on appelait les cagots était insultée, on les avait exclus totalement de tout quasiment. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le droit de toucher de l'eau, ils n'avaient pas le droit de toucher les aliments, ils n'avaient pas le droit de vendre encore moins des aliments. Ils n'étaient pas enterrés dans les mêmes cimetières, ils avaient une entrée spéciale dans l'église au bout d'un moment, parce qu'ils ont été tellement exclus que voilà. C'est incroyable, 1000 ans d'exclusion pour ce peuple-là qu'on a cru à un moment être des pestiférés ou des lépreux plutôt. On a dit énormément de choses. L'énigme historique, c'est d'où ils viennent et pourquoi avoir été exclus à ce point-là et aussi longtemps de la population locale.
Et ils ont disparu?
Ah, ils s'en sont, au bout d'un moment, au 19e siècle, ça a commencé, ils ont commencé un petit peu à se mélanger, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, la consanguinité a fait que le peuple a disparu. Mais il en reste encore des cagots, mais dans le sud-ouest, là, c'est vraiment resté une insulte. C'est-à-dire que si on se fait traiter de cagots, rien à voir avec cagole, mais c'est vraiment insultant. Et ces gens-là qui ont vraiment été meurtris pendant des années par cette exclusion, notamment, et par ces moqueries, ne tiennent pas particulièrement à en parler.
Alors il y a les personnages aussi. Je pense au mage de Marsal.
Ah oui, le mage de Marsal, mais ça c'est plus récent effectivement, on est dans les années 70 et un jour il y a un type, on est du côté de la Moselle je crois, ou de la Meurthe-et-Moselle, en tout cas en Lorraine, et puis il y a un type qui va se pointer à la gendarmerie assez tôt et qui va déclarer qu'on lui a volé des statues qui parlaient, donc ça peut paraître assez bizarre, mais bon, on l'appelait le mage de Marsal. Et ce type dit, on m'a volé des statues qui parlent, j'ai mis un temps fou à les faire parler, et puis voilà. Et puis il rajoute quand même qu'en même temps, on lui a enlevé des enfants. Et là, ça commence à devenir particulièrement intéressant pour la gendarmerie, qui se dit, mais non seulement il est fou, mais il faut quand même qu'on vérifie si ce qu'il raconte est vrai, quoi. Et donc, il y aura toute une enquête où on ne saura pas vraiment s'il avait eu des enfants. En tout cas, c'est assez bizarre comme histoire. On ne saura pas vraiment. En tout cas, c'était un espèce de sorcier, un espèce de gourou. Et voilà, sa maison existe toujours, elle est dans le même état. Alors, évidemment, avec les années, elle est dans un triste état, mais elle est dans le même état que quand ils ont quitté les lieux, quoi. Et il a vécu jusqu'à assez tard, je crois, dans les années 2000, je crois, le mage de Marsal.
On va en faire deux, comme ça, c'est, voilà. David Gallet, donc, mystérieuses archives. Ces archives, elles sont où?
Alors, il y en a partout. Vous pouvez aller aux archives départementales, aller sur le site de Gallica pour la BNF. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Il y a des archives qui viennent de collections privées en ce qui concerne le bouquin Mystérieuses Archives. Mais on peut les retrouver. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est quand on lit le livre, on peut se dire, allez, je vais aller voir un petit peu sur l'archive originale. Et donc, on s'aperçoit que ce que je viens de raconter, c'est-à-dire des histoires de fantômes, d'ovnis ou de choses comme ça, sont absolument, en tout cas, réelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, bien, elles figurent bien dans les archives et sont particulièrement bien décrites.
Alors, le souterrain de Léonard de Vinci, il est répertorié.
Ah, plus ou moins. Alors ça, c'est un peu. Oui, on est un peu dans la légende quand même, parce que c'est le Clos Lucé, et effectivement, il est fort possible que c'était François Ier qui voyait Léonard de Vinci régulièrement, n'avait pas à se cacher. Enfin, ça me paraît totalement stupide. En plus de ça, Léonard de Vinci était quand même très âgé à cette époque-là. Alors descendre dans des souterrains pour aller voir discrètement le roi, ça me paraît bizarre. il est, vu le contexte géologique et surtout les souterrains et les tunnels qui existent dans le secteur, il est possible effectivement qu'il y ait une sorte de souterrain qui relie le château au Clos Lucé. Ça, c'est tout à fait probable, mais alors on n'en a aucune idée, quoi.
Qu'est-ce qui fait la part de la légende et de la vérité ? Pas forcément pour ce souterrain, hein, oui. Globalement.
Bah, globalement, il y a toujours un fait au départ. Hein. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les légendes ne naissent pas de rien du tout. Généralement, il y a toujours quelque chose qui va être souvent amplifié ou traduit, on va dire, avec une connotation religieuse ou de croyance ou de superstition. Et puis petit à petit, bah, ça va prendre de l'ampleur. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça va s'enflammer. Et on va en avoir partout en Europe, par exemple. Et on va tous connaître l'histoire du dragon qui a été tué par tel et tel saint ou je ne sais pas quoi. Et puis quelquefois, ça ne prend pas du tout. Mais on en trouve quand même des traces dans les archives. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des légendes qui meurent très vite, puis d'autres qui vont perdurer durant des siècles.
Voilà, donc cela s'appelle Mystérieuses Archives, enquête au cœur de l'inexpliqué aux éditions de L'Opportun, un véritable tour de France du mystère et de l'étrange. Alors je ne sais pas si la phrase qui est la suivante, l'imagination est plus importante que le savoir, est d'Albert Einstein, ça c'est certain, si elle est sur le titre ou sur la couverture du livre, mais en tout cas c'est une très jolie phrase.
Oui, parce que bah, si on réfléchit longuement, je pense qu'on arrive à cette conclusion, enfin en tout cas pour l'instant, hein, demain je penserai peut-être différemment, mais à cette conclusion qu'effectivement on est dans une sorte de monde un peu imaginaire, en tout cas qu'on conçoit un peu chaque jour, et qu'il est bon aussi de s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, plutôt que d'en avoir peur.
Merci.
Merci à vous.